Le Grand Matin Sud Radio. 5 questions pour tout savoir.
Merci d'être avec nous. Il est 9h43 et ce matin, nous sommes avec Anne Poiret. Bonjour. Vous êtes journaliste, documentariste et spécialiste des questions de l'après-guerre au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Mon pays vend des armes ». Bien sûr, on parle de la France aux éditions Les Arènes. Vous avez aussi réalisé un documentaire, puisque ce livre est extrait d'un documentaire qui a été diffusé sur la chaîne LCP. 18 mois d'enquête dans une situation assez inconfortable, si on peut parler, sur le sujet de l'armement en France, qui est couvert par le secret défense, ce qui limite beaucoup, j'imagine, l'investigation et qui met fin à pas mal de discussions. Et je le disais, le sujet de l'exportation de l'arme qui sont fabriquées en France, très sensible, est tellement que même le champ lexical a changé. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'armement, en tout cas de fabrication ou de fabricant d'armes, mais d'une base industrielle et technologique de défense, qui prouve que c'est un vrai problème. Mais le point de départ, finalement, de cette enquête, c'est la morale, puisque nous sommes le pays des droits de l'homme.
C'est la morale et puis c'est le droit aussi, parce qu'on est signataire du traité pour le commerce des armes, qu'on a ratifié en 2014, on a signé une position commune en 2008, donc il y a un cadre en fait au vent de l'arme. Donc après, est-ce que c'est moral ou pas, ça c'est des questions qui se posent.
En tout cas, ce sont des gens qui sont venus, ou des enfants, ou des civils qui sont venus vous en parler dans certains pays, en disant, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes le pays des droits de l'homme et que vos armes tuent?
Oui, voilà, c'est-à-dire que ce qui était très intéressant pour moi, et qui est effectivement le point de départ de mon enquête, c'est qu'en Libye, en Irak, au Yémen, où j'ai pu me rendre avant la guerre, les gens vous renvoient cette image de vendeur d'armes, en fait, qu'on n'a pas en France, en fait. C'est ça un tabou, hein, c'est qu'on n'y pense pas. On a complètement évité cette idée. On se vit comme le pays des droits de l'homme et il faudrait, et de l'extérieur, les pays, en Égypte, c'est très très frappant, les gens ont tout à fait conscience de ce qu'on leur vend, de ce qu'on vend ce qu'on a vendu à Kadhafi, ce qu'on a vendu à Saddam Hussein, et les populations civiles vous interpellent sur ces questions quand vous allez là-bas.
Alors pour revenir, pour expliquer comment ça fonctionne, le matériel de guerre, on peut exporter, mais il y a des conditions forcément à remplir, des conditions de licence.
Non, c'est un domaine qui est très très encadré en France. Oui. Il est absolument interdit de vendre des armes à l'étranger pour un industriel, sauf à avoir une autorisation étatique, donc ça passe par une commission. Alors pour des armes, si ce sont des boulons à la Suède, ça posera pas de problème, ça passera par un système informatique qui sera contrôlé, mais qui sera sans problème. Et pour les cas qui sont plus contentieux, il y a chaque mois une réunion qui a lieu, qui s'appelle la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre, la CIEM, c'est une commission interministérielle où plusieurs ministères débattent en fait de savoir si c'est approprié ou pas de vendre, par exemple, un missile à l'Arabie Saoudite ou ses canons. Le problème, c'est que toutes ces discussions, qui sont parfois des débats très forts, on me le dit, ça peut être très sportif, ces discussions sont classifiées, elles sont classifiées confidentielles défense, donc par nature on ne peut pas savoir comment l'État prend ses décisions.
Oui, parce que normalement il y a des classifications par pays, et puis des classifications par armes, du coup, et c'est comme ça que normalement ils devraient travailler.
Alors toutes les armes, à partir du moment où c'est du matériel de guerre, c'est classifié, comme ça doit passer par cette commission, donc vous devez avoir cette licence. Donc l'État français contrôle toutes ces armes et toutes ces décisions, et les industriels s'abritent beaucoup derrière ça en disant c'est pas nous, c'est l'État français, nous on est responsable de rien. Alors ils sont quand même responsables de demander une licence, ils pourraient s'abstenir, mais à partir du moment où la demande est faite, c'est la France qui prend cette décision.
Et les armes, sous le mandat de François Hollande, avec Jean-Yves Le Drian, à la défense, c'est quand même la période durant laquelle on a vendu le plus d'armes à l'étranger.
Voilà, on a toujours été un pays
ce qu'on appelle l'équipe France.
L'équipe France, voilà. On a toujours exporté beaucoup d'armes. On n'a plus assez d'argent pour fabriquer et d'être complètement autonome dans notre armement sans l'exporter. C'est-à-dire que ça, il faut le rentabiliser. Et donc,
il faut éviter les trous de production, c'est sûr.
Une partie, voilà. Ouais. C'est comme ça que c'était qu'il l'explique. Et sous François Hollande, il y a une décision effectivement qui a été prise pour équilibrer la loi de programmation militaire. De fonder une partie de l'équilibre budgétaire sur les ventes d'armes, sur l'exportation, et notamment d'essayer de réussir ce pari de vendre le Rafale.
Ah bah oui,
personne n'avait réussi à vendre.
C'est pour ça que ça a augmenté aussi un petit peu.
86 Rafales.
C'est pour ça, voilà.
S'il n'y avait pas eu cette vente, on n'aurait pas dit, oui, c'est sous François Hollande qu'on a vendu le plus d'armes, quoi.
Oui, mais c'est comme ça, et ça entraîne effectivement, c'est pas juste l'avion, c'est des missiles qui viennent avec, c'est des corvettes, il y a eu tout un ensemble de choses, notamment.
Et c'est l'industrie française derrière aussi.
C'est comme ça qu'ils le disent, oui. C'est bah l'industrie, oui. Ça entraîne effectivement des emplois indirects. Voilà, simplement, c'est vrai que ces chiffres sont compliqués à vérifier. Donc, on ne sait pas exactement combien d'emplois sont concernés. La ministre récemment parlait de 400 000 emplois indirects. Bon, voilà, il faut la croire sur
400 000
parole. C'est le dernier chiffre qui est sorti en commission.
Effectivement.
Mais indirect, hein, indirect. Ouais, 60 000 qui seraient concernés directement par l'exportation. Donc voilà, il y a aussi un contexte de réarmement mondial. Il y a aussi le retrait des Américains. Par exemple, en Égypte, les Américains ont freiné sur les livraisons qu'ils faisaient à l'Égypte suite au massacre d'août 2013. Il y a quand même pratiquement, les organisations de droits de l'homme disent qu'il y a pratiquement un millier de civils qui ont été tués au Caire. À la suite de ça, les Américains ont quand même freiné sur les livraisons d'armes. Mm-hmm. Et il y a un espace qui s'est ouvert pour la France, sur lequel, effectivement, l'équipe française de Jean-Yves Le Drian est rentré, et à la suite d'un certain nombre de ventes, hein, de véhicules blindés qui se sont faits pour le coup dans le plus grand secret, un espèce de partenariat s'est fait avec le maréchal Sissi et ses équipes. On a vendu des corvettes, puis le Rafale, et c'est devenu l'Égypte notre premier client en termes de livraison d'armes ces deux dernières années.
Alors il y a l'Égypte, mais il y a aussi l'Arabie Saoudite qui pose problème, surtout ces derniers temps avec dans la guerre du Yémen et les missiles aujourd'hui. Alors, vous en avez parlé assez facilement. Les missiles aujourd'hui, forcément, qui tuent des civils, ce qui est à la base totalement interdit dans le cadre du traité que vous avez évoqué, mais malheureusement, on est en état de guerre. Ces missiles aujourd'hui, on n'a aucune preuve que ce soit aujourd'hui des missiles français. On sait que ce sont des missiles américains, mais on ne sait pas si ce sont des missiles français.
Pour l'instant, il n'y a pas de preuve que des missiles français, effectivement, aient pu commettre des crimes de guerre, si vous voulez. La plupart des morts civiles et des crimes de guerre qui sont suspectés, accusés les Saoudiens et les Émiratis au Yémen sont notamment le fait de l'aviation. Mmh. Et donc c'est plutôt des avions et des missiles vendus par les Américains et les Anglais. Sauf que, effectivement, Jean-Yves Le Drian a dit en commission des affaires étrangères en début d'année, il faut arrêter, c'est pas la France qui peut être suspectée, accusée de commettre les armes françaises qui peuvent être utilisées, puisque nous ne vendons rien à la chasse saoudienne. C'est pas vrai. On vend des pods, ce sont des outils qui, sur les avions de chasse, permettent de désigner les cibles. Mmh. Donc on ne trouvera jamais ces pièces, évidemment, puisqu'elles sont embarquées dans l'avion. Donc on ne les trouvera pas sur un site de crimes de guerre, mais pourtant on les vend, et pourtant ils sont utilisés dans ce conflit au Yémen.
Alors le problème, c'est justement entre le profit et l'éthique, hein, c'est un peu le problème de la vente d'armes, et le secteur économique, en tout cas, c'est un secteur extrêmement prospère, on l'a dit, pour les régions, et surtout pour l'emploi, on l'a dit, mais surtout les régions comme tout le Bordelais, par exemple.
Le Bordelais, Bourges, ça a été très frappant pour moi, effectivement, d'aller à Bourges, où il y a des usines d'MBDA qui donc ont fabriqué le plus grand missilier d'Europe, mmh. Qui est une société anglaise aussi, italienne, mais française, l'ancien Matra. Donc ils ont des usines à Bourges, ils ont des Nexter aussi à des usines à Bourges, où ils fabriquent les canons César et juste à côté les munitions pour ces canons qui sont employés dans la guerre au Yémen. C'est vrai qu'il faut avoir conscience que ces régions, dans ces régions-là, il n'y a pas beaucoup d'autres emplois, en fait. Hein. Donc ce sont des entreprises prospères, vous l'avez dit, qui embauchent. Donc voilà, c'est évidemment un débat très complexe. Hein. Il faut tout à fait avoir confiance de ça. Et pour ces régions, c'est tout à fait central, hein, et c'est très compliqué. Donc,
il y a beaucoup de maires qui les défendent.
Aussi. Et voilà, il y a des maires qui les défendent parce qu'ils font très bien vivre ces régions. Donc,
parce qu'il y a cette entreprise, mais il y a aussi Thales, il y a Dassault, il y a Safran, il y a Renault.
Bien sûr.
Non, ouais. Ce sont des. Voilà. Simplement, c'est pas qu'un débat éthique et moral, c'est aussi un débat légal, hein, puisque ce qu'avancent les ONG, c'est qu'on a signé ce traité. Alors, les Américains, on l'avait signé, mais pas ratifié. Il semble qu'ils sont en train d'en s'en retirer complètement. Peut-être que la France, si elle ne peut pas le respecter, il faut peut-être qu'elle en sorte. Mais il y a probablement quand même un problème.
Il y a quand même un souci, quoi qu'il en soit, parce que si on n'est pas nous-mêmes à fabriquer en fait des armes, si on ne poursuit pas la technologie, d'autres l'auront et vendront, quoi qu'il en soit, en fait ces armes, quoi. Donc il faut toujours aussi maîtriser la technologie, c'est ce qu'on doit vous répondre chez les politiques, quoi, non?
Tout à fait, c'est ce que François Hollande, dans son dernier discours, probablement un de ses derniers discours de président, c'est un déplacement à MBDA à Bourges, où effectivement il termine son discours en disant « Vive MBDA, vive... » République et vive la France.
Il dit pas vive les armes, mais il dit...
Il dit vive MBDA, vive la République, vive la France, pour terminer. Mais il dit, si c'est pas nous, ce sont les autres, en effet.
Bah oui, c'est
bon,
ça.
Bon, ce sont des questions qu'il faut se poser. Moi, j'ai pas de réponse, sans savoir s'il faut qu'on continue à vendre ces armes à l'Arabie Saoudite. Ce qui est nécessaire, c'est un débat. Aujourd'hui, il commence vraiment, il est naissant, ce débat en France, mais jusqu'à ces derniers mois et vraiment presque ces dernières semaines, il était inexistant en France. Il faut vraiment
c'était
avoir conscience
l'omerta, vraiment.
Il y avait en Allemagne, en Angleterre, les gens débattent de ça, dans les parlementaires en débattent, ils s'étripent. Enfin, je veux dire, il y a vraiment ce sont des questions très complexes. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas. Enfin, Voilà, il n'y a pas de réponse simple. Mais il faut qu'il y ait un débat. Il faut qu'il y ait un débat avec des éléments concrets. Et il faut qu'il y ait plus de transparence. Il faut que les parlementaires se saisissent
de ces
questions.
Mais la transparence en matière de défense, vous savez, c'est extrêmement compliqué. Puisque,
ça se négocie, évidemment que ça se... Ça se pousse.
Mais il y a aussi un point important, c'est vendre des armes à des pays instables qui pourraient éventuellement se retourner contre nous.
Alors, ça fait partie des discussions
On a déjà vendu des armes à des pays qui sont retournés contre nous.
La Libye, on a vendu des armes avec des pays avec lesquels après on a été en guerre. Au tout début des années 80, la Libye avait des armes, avait des avions qui combattaient les nôtres en face du Tchad. Donc ça sont des situations qui arrivent. Ce sont des situations dont ont tout à fait conscience les gens qui prennent les décisions. Le ministère des Armées, par exemple, c'est une des premières questions qu'il va poser en siège. C'est-à-dire, est-ce que ces armes vont se retourner contre nous ? C'est un des risques évidemment qui est étudié. Ouais. Donc ils font pas n'importe quoi, de ce que je peux en comprendre, puisqu'encore une fois, on ne me parle pas.
Est-ce que vous avez eu du mal à réaliser votre enquête ?
Oui, c'est très difficile parce que, par définition, on ne parle pas. Donc ces discussions sont confidentielles défense. Donc c'est très pratique le confidentiel défense. Voilà, c'est secret, on peut pas en parler. Secret de la défense nationale, donc on répondra pas à vos questions. Il y a évidemment des choses, vous le disiez, la défense c'est un sujet sensible. Vous avez parfaitement raison. Il y a des choses qu'on ne doit pas savoir. Ouais. Les détails de certains armements, bien sûr, ça ne doit pas être public. Mais le comment ce que le politique se fonde pour vendre des armes. Pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite est notre premier client en termes de licence, c'est-à-dire que c'est pas forcément le premier à qui on arrive à en vendre, parce que la compétition, vous l'avez dit, est féroce. Mm-hmm. Mais c'est le premier pays à qui la France dit aux industriels, allez-y, vous pouvez y aller, vous pouvez vendre. C'est des discussions qu'il faut qu'on ait avec les collectivement.
Oui. Est-ce que vous avez eu peur, de pression ? Vous avez subi des pressions ?
Non, j'ai subi aucune pression. On est quand même dans ce pays. Alors, mes camarades de Disclose, eux, c'est une autre affaire. Hein.
Ouais. C'est-à-dire
c'est... Ben, la DGSI, ils ont été convoqués. Vous savez qu'il y a sept journalistes sur des affaires de vente d'armes à l'Arabie Saoudite dans le cadre du conflit au Yémen.
Pour compromission du secret de la défense nationale.
Voilà, c'est interrogé pour compromission de... Donc voilà, ça c'est... De point de vue des menaces, non. On est dans un pays, je l'espère jusqu'à présent en tout cas, où on peut discuter de ces questions. Ne pas avoir beaucoup de réponses, mais dans le documentaire, officiellement j'en ai pas eu. J'ai quand même beaucoup de gens, et je le raconte dans le livre, qui me parlent off, donc j'ai pu avoir des gens à l'Élysée, au Quai d'Orsay, dans l'équipe France même, des gens qui m'ont raconté les coulisses de ces années-là, mais on est quand même dans ce pays où on se fait pas... On n'a pas besoin de s'exiler.
Oui, c'est vrai.
L'arrivée d'Emmanuel Macron, parce que qui a un peu dissolu l'équipe France, est-ce que l'arrivée d'Emmanuel Macron change quelque chose finalement ?
Pour l'instant, probablement pas. Ce qui est nouveau, si vous voulez, et ça on le sent quand effectivement on parle à des gens off, hein, parce qu'à nouveau les gens ne parlent pas, même dans cette équipe, c'est qu'il y a une conscience qu'il y a un problème avec le Yémen et avec l'Arabie Saoudite. Donc ils sont très conscients de ça et il y a un énorme malaise aujourd'hui. Il y a aussi un contexte politique qui a évolué. Il y a eu le meurtre du journaliste Khashoggi en octobre, qui a fait que la conversation a dû... moi, ils ont pu ne pas me répondre, mais tout d'un coup, ce scandale planétaire a fait qu'ils ont dû... ils ont été interrogés sur ces questions, ils ont dû fournir des réponses. Et là, on s'aperçoit que quand ils parlent, ils mentent, malheureusement. Donc, ça pose d'autres questions, mais... voilà, donc pour l'instant, on ne sait pas, on est en attente. Normalement, le 1er juin, le ministère des Armées aurait dû publier le rapport au Parlement. Hein, je vous rappelle, c'est le rapport au Parlement, ce sont les seuls chiffres publics qu'on ait. Hein, c'est comme ça qu'on sait qui sont nos clients. Ils auraient dû le publier le 1er juin, on l'attend toujours. Mais on va voir quelle évolution il y a, si on a vendu plus d'armes, moins d'armes, si l'Arabie Saoudite est toujours notre premier client en termes de licence et l'Égypte notre premier client en termes de livraison.
En tout cas, merci. Merci beaucoup. Il y aura peut-être un tome 2. Mon pays vend des armes aux éditions Les Arènes. Lisez-le, c'est passionnant, vraiment.
Oui.
Anne Poiret, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Patrick, on se retrouve demain.
On parlera justement d'armes, de débarquement et tout. Jeudi prochain, je le rappelle, nous serons en direct de la gare Saint-Lazare avec les trains qui partent, les trains spéciaux pour le débarquement, ces cérémonies, le 75e anniversaire.
Et nous, on reste à quai.
Nous, on restera à quai. On restera à quai. Dans un instant, c'est Valérie Expert. André Berkoff ce midi avec son invité Cécile, donc, qui sera Denis Tillinac, hein, journaliste et écrivain, auteur de Elle, éloge de l'éternel féminin. Jacques Pessis avec Guy Carlier ce midi, Brigitte Lahaye évidemment, et tous les rendez-vous jusqu'à ce soir avec Les Vraies Voix.
Et nous on se retrouve demain matin.
Demain matin.
Allez, salut.
Ciao, ciao.